France Inter.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien vous fasse. Et ce matin, comment la mythologie gréco-romaine peut nous aider à vivre? Comment ces mythes ne cessent de nous instruire en 2025 et d'irriguer notre culture classique et populaire? Zeus et Jupiter, Aphrodite et Vénus, Athéna et Minerve, Poséidon et Neptune, Héraclès et Hercule, comment toutes ces divinités peuvent nous aider à comprendre notre condition et notre destin humain, se connaître et mieux comprendre les autres? L'un de nos invités, Pierre Judet de la Combe, nous dira par exemple que les dieux de l'Olympe nous permettent de vivre 1000 vies, dont celle de nos ennemis, tandis que Blandine Le Calais reviendra sur leur ambivalence morale qui peut parfois nous mettre mal à l'aise. Et vous, racontez-nous votre intérêt, votre passion, ou alors votre désintérêt total pour cette mythologie gréco-romaine au standard et sur WhatsApp au 01 45 24 7000, sur l'appli Radio France et sur la page Facebook de l'émission. Bienvenue dans Grand Bien vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Grand Bien vous fasse, Ali Rébéi.
Ah, Jason vient sur le mont Olympe, enfin. Nous t'avons fait conduire en ce lieu par Hermès.
Jamais je n'aurais pensé qu'un mortel pût demander l'aide des dieux.
Jason, je suis Héra, la reine des dieux. Et je protégerai ton voyage. Mais mon seigneur Zeus a entendu limiter le nombre de fois où je pourrai t'aider quand tu m'invoqueras. Ne dis rien pour l'instant. Je sais ce que tu veux me demander. Est-ce que la toison d'or existe? Et si oui, où est-elle?
Ça fait deux questions.
Je l'aiderai en n'y répondant qu'une fois en tout. Cherche sur la terre de Colchide.
Mais la Colchide, c'est aux confins du monde. Nul grec n'a navigué jusque-là.
Entendez, Jason. Es-tu sûr de ne pas avoir besoin de mon aide? Je lui ai offert un bateau, et il a refusé.
Il a refusé l'aide des dieux?
J'ai eu raison de te choisir, Jason. Les dieux sont mieux servis par ceux qui veulent s'aider d'abord.
Extrait de Jason et les Argonautes en 1963. Bonjour Pierre Judet de la Combe.
Bonjour.
Vous êtes philologue et helléniste, directeur de recherche à l'EHESS, directeur de recherche émérite au CNRS, producteur de l'émission Quand les dieux rôdaient sur la terre, le samedi à 11h sur France Inter et en podcast. L'un des succès de la chaîne, le livre éponyme vient de sortir chez Albin Michel et les Belles Lettres. Bonjour Blandine Le Calais.
Bonjour Ali.
Vous êtes romancière, maîtresse de conférences en latin à l'université Paris-Est Val-de-Marne. Vous avez consacré votre thèse au monstre à Rome. Vous êtes l'autrice de Médée, une BD en 4 tomes chez Casterman, et vous aviez publié avec votre fille autrice de BD Valentine Le Calais Le monde antique de Harry Potter. Bonjour Bertrand Audouy.
Bonjour Ali.
Vous êtes le rédacteur en chef de la très bonne revue Mythologie, à la une de l'avant-dernier numéro La sagesse des Grecs, ce que les grands récits nous enseignent. Alors, Pierre Judet de la Combe, quelle est la particularité de la mythologie grecque par rapport à d'autres mythologies à travers le monde? Quelle est la particularité de Zeus, d'Aphrodite, d'Athéna, de Dionysos ou encore d'Apollon? C'est quoi? Ce sont des dieux qui ne sont pas transcendants, ils sont nés quelque part à une époque précise, ils ont été créés et ils font le réel.
Voilà, c'est ça, c'est-à-dire que les dieux sont pas éternels, enfin éternels dans l'avenir, enfin ils durent toujours normalement, mais ils sont nés quelque part à un moment précis, dans un certain ordre, donc c'est toutes ces histoires de famille incroyables. Et donc les dieux, c'est comme si, on peut dire en deux mots, les dieux c'est le réel, c'est ce qui fait que ce qui doit vous arriver, vous arrive. Donc vous recevez une tuile sur la tête, vous êtes malade, vous faites fortune avec votre bateau, ou bien vous vous faites battre par des ennemis, vous devenez esclave, vous êtes vainqueur. Ça, ce sont les dieux qui décident. Et donc, les mythes, ça permet de se débrouiller là-dedans. Et je dois dire qu'il y a des mythes partout, dans toutes les civilisations, évidemment, et encore maintenant, même si on n'y croit plus vraiment. Mais la particularité grecque, et ça alors que le matériel, disons mythologique, les figures, alors c'est à la fois indo-européen, donc on a la même chose en Inde, etc. C'est aussi sémitique, on a la même chose, les mêmes dieux, les mêmes histoires en Mésopotamie. La grande, grande particularité, c'est que les dieux se répartissent le pouvoir. Et la question fondamentale, c'est pas qui a le pouvoir, quelle est l'autorité, comme on a en Mésopotamie, par exemple, mais comment introduire une solidarité, et une compétition, mais une solidarité entre les dieux et entre les humains. Donc c'est la question de la cité. Ça, c'est vraiment particulier, alors que les histoires peuvent être presque les mêmes, d'une civilisation à l'autre.
Si je vous comprends bien, tous les événements qui arrivent aux humains sont donc provoqués par les dieux.
Alors, sont provoqués ou ont l'assentiment des dieux. C'est-à-dire que, alors parfois, quand on ne sait pas bien, on dit c'est la fortune. Si on gagne une bataille, c'est qu'on a fait ce qu'il fallait. Si on a perdu une bataille, c'est qu'on a... Au moins, on a fait une faute de rituel par rapport, on n'a pas fait le sacrifice qu'il fallait, etc. Un champion de tir à l'arc, s'il perd, c'est parce qu'il n'a pas promis une hécatombe à Apollon, le dieu. Ça coûte très très cher une hécatombe, c'est 100 bœufs à tuer quand même. Donc il fallait promettre ça si on voulait gagner. Donc c'est les dieux, c'est l'idée d'ordre. Alors mais ce qui est grandiose dans cette mythologie, c'est que l'ordre, il vient pas, il tombe pas du ciel, on peut dire. Il y a bien, comme disent les Grecs, un cosmos, un monde organisé. Mais ce monde a une histoire qui, elle, est hyper désordonnée, hyper violente. Il faut arriver, pour arriver à l'ordre, il faut de la violence. Et surtout, ce qui intéresse, je crois, les dieux, et les Grecs quand ils ont créé leur mythe, c'est pas tellement les dieux. Les dieux, ils sont éternels, ils sont bien heureux. Bon, ça va, on voit à peu près ce que c'est, quoi. Ils font la fête tout le temps dans l'Olympe, ils ont des jalousies, tout ça. Mais c'est pourquoi nous sommes là, nous. Pourquoi nous, les humains, alors que nous, on est des petits êtres souvent crapuleux, bêtes, limités, et les dieux ont eu intérêt à nous faire, à nous fabriquer. Ça, c'est quand même le grand point. C'est-à-dire qu'il faut que nous existions pour que les dieux soient contents. Alors qu'ils pourraient être parfaitement contents d'eux-mêmes, dans le bonheur, voilà, dans l'éternité, à se faire quelques batailles de temps en temps. Mais non, c'est nous qui sommes au centre.
Blandine Le Calais.
Je suis d'accord avec tout ça, évidemment. Moi, ce qui m'intéressait, comme vous le disiez, c'était quand même le côté ambivalent de tous les personnages de la mythologie, les dieux et aussi les héros. Vous avez ouvert cette émission avec Jason. Jason, c'est typiquement, dans la mythologie gréco-romaine, un héros totalement ambivalent. C'est-à-dire qu'il a les curseurs du héros, il part pour une quête mythique, etc. Et en même temps, qu'est-ce qu'il fait ? Il y va en bateau. Et ce bateau, c'est le premier bateau qui viole la mer, qui effectue un voyage en haute mer. Et donc, le personnage de Jason dans la mythologie gréco-romaine, il est totalement ambigu. Et moi, c'est ça qui m'intéresse dans la mythologie, c'est qu'on est en présence de personnages à chaque fois admirables, pleins de qualités, aussi bien les dieux que les héros, mais des personnages qui sont troubles, qui ont des passions, des jalousies, des violences, de l'ultra-violence. Et je pense que la mythologie, ce qu'elle nous dit, c'est que c'est impossible d'avoir un jugement univoque, en fait, sur autrui. Et les dieux de la mythologie nous enseignent ça. Ce ne sont pas des saints, comme dans la religion chrétienne. C'est au contraire des êtres totalement troubles. Et c'est pour ça qu'ils sont intéressants, parce que c'est des modèles qu'on admire et en même temps qui sont faillibles. Donc je pense qu'ils nous parlent de la nature humaine, les dieux de la mythologie.
Qu'est-ce qu'une mythologie, d'ailleurs, Pierre Judet de la Combe ?
Ah, il y a toute une discussion, parce que dans mythologie, il y a deux mots, il y a mythos. Qui est, donc c'est comme murmure, hein, c'est la parole, et ça peut être un récit, mythos, et logis, c'est le discours, alors on dit rationnel, c'est le discours complet, qui fait une liste, qui recueille tous les éléments pour faire un tout. Mais alors, le verbe mythologoein existe dans Homère, ça veut dire Ulysse dit « je vous raconte une histoire », donc il va dire mythologoein. Et après, on a pris ça pour dire l'ensemble des récits sur les dieux, mais ça, c'est une invention, disons, plutôt récente. Les Grecs n'avaient pas de mots pour dire le mythe, alors d'où certains savants ont dit « du coup, ça n'existe pas », ce que je pense pas, ça existe, le mythe, mais ils n'avaient pas besoin, parce que c'était pour eux, c'était évident que dès qu'on parle d'un héros, d'un dieu... Alors on en parlait dans des rituels, dans des cérémonies, dans la poésie. On pouvait peindre des portraits d'Achille, etc., ou de leurs actes, tout ça. C'était évident. Mais ce qui est frappant, c'est que, c'est quand même peut-être important, c'est que jamais aucun Grec ne va raconter l'histoire d'Œdipe. Depuis sa naissance jusqu'à sa disparition. On va raconter un événement, parce que tout le monde connaît l'histoire. Et ce sont des savants scolaires qui ont dit, on va mettre tout ça en ordre. Et quand on voit les livres pour enfants sur la mythologie, en fait, ce sont des manuels scolaires de l'Antiquité qui sont repris. Pour un Grec, il faut se dire, tiens, Aphrodite m'intéresse à ce moment-là, parce qu'elle a fait ça à ce moment-là.
Bertrand Audouy, je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef de la revue Mythologie. Comment est né votre intérêt pour les mythologies ?
En fait, c'est un intérêt plutôt pour le récit, hein, et pour la culture. C'est-à-dire qu'en fait... Avant, je dirais de 30 à 45 ans, j'étais rédacteur en chef d'une revue sur les technologies et sur le business. Voilà. Donc j'ai fait ça. Ça n'a rien à voir. Et pourquoi ? Parce que je pense que ça correspondait à une époque personnelle, mais à une époque générale. C'est-à-dire que j'étais étudiant à la chute du mur de Berlin. Et à la chute du mur de Berlin, nous sommes dans un monde globalisé qui tend à dire qu'il n'y a plus qu'un seul système libéral, démocratique et capitaliste. Donc moi, quand j'ai 30 ans ensuite, eh bien, je m'intéresse à l'économie et à une révolution que sont les technologies de l'information. Voilà. Mais il s'avère que à 45 ans, eh bien, la revue commence à décliner parce que l'économie des technologies décline et que je perçois dans le discours ambiant tout un discours non plus sur l'économie, mais sur la culture et sur l'identité. Voilà. Et il s'avère que personnellement, dans ma famille, le visage de ma famille a complètement changé. Puisque c'est intégré des gens de culture juive, de culture musulmane. Mon épouse est africaine, je suis ouvert sur un monde anglo-saxon. Et donc la question est de se dire, comment faire le lien ? Et le lien, c'est la culture. Mais qu'est-ce que la culture ? Alors la culture, d'un point de vue, si on écoute Bourdieu, il nous dit, écoutez, il y a ce qu'on appelle un capital social, un capital financier et un capital culturel. Et le capital culturel, on le retrouve notamment dans les classes moyennes ou dans les classes bourgeoises, chez les avocats, les médecins et les enseignants. Et la culture est un moyen d'affirmation. Ce que l'on retrouve très bien, par exemple, autour des dîners familiaux, hein, où il ne faut pas déchoir lorsqu'on nous pose une question, et ce qu'on retrouve exactement, notamment dans les études de sciences politiques. À Sciences Po, on dit que ce sont des études de culture générale, en fin de compte, ce sont des études de sciences pratiques, et on vous apprend, non pas tant à vous ouvrir, mais qu'à répondre, et à savoir répondre à toutes les questions. Donc à partir de là, je me suis dit, bien, la culture, c'est le récit, et le récit, on passe par la mythologie.
Et vous, votre intérêt personnel pour la mythologie et la mythologie grecque en l'espèce, Pierre-Judé de Lacombe, c'est né comment ?
Non, c'est trop intime, ça. C'est quand j'étais petit que je regardais les illustrations des contes et légendes, voilà, et donc j'étais assez fasciné par les déesses, faut dire. Donc, puis il y a cette idée, faut pas nier que s'intéresser à la Grèce antique, c'est un moyen de pas se laisser assommer par le réel contemporain, quoi. Ça, c'est un peu une fuite. Mais surtout, ce qui m'a passionné, c'est grâce à quelqu'un que j'ai rencontré en mai 68, justement, qui était un libérateur, un helléniste, Jean Bollack, qui disait, vous savez, il y a la poésie contemporaine que lui adorait, qui est magnifique, mais la poésie grecque ancienne, il y a une liberté, une force, un génie inouï dans Eschyle, Homère, mais aussi dans Platon, tout ça. Donc, je me suis dit, face au monde ambiant, c'est comme vous disiez, donc ce monde capitaliste administré là, qui était un peu, puis avec les promesses de révolution qui n'aboutissaient pas, faire valoir des grandes libertés, liberté de poétique.
Et vous, quel est votre intérêt pour la mythologie latine ?
Mais moi, c'est pareil, ça s'est éveillé à l'enfance et c'est la sensualité, la violence, la beauté de ce monde-là qui m'ont séduite. Mais ce qui est vrai, c'est que je pense qu'aujourd'hui, être un passeur de culture gréco-romaine, c'est faire de la politique. C'est-à-dire que je pense que le lien social peut vraiment beaucoup se créer à travers la diffusion de cette culture antique. Hein. On dit que la France est un pays de culture chrétienne, c'est une évidence, mais on oublie que la France est un pays de culture gréco-romaine. Et personnellement, je l'ai vécu, notamment avec le livre que vous évoquiez sur le monde antique de Harry Potter, qui m'a amené à faire des interventions aussi bien dans des médiathèques face à un public assez divers, d'enfants de 7 ans, dans des banlieues plutôt défavorisées, etc., que à l'université face à un public évidemment plus instruit, plus érudit. Et en fait, c'était assez plaisant et merveilleux de penser qu'on arrivait à parler de ce livre à différents niveaux de culture, ça crée du lien social.
Elle pourrait personnifier Athéna, la déesse de la sagesse. Marie-Laure Sonnenschein, bonjour.
Bonjour,
Ali. Rédactrice en chef à Femme Actuelle, bonne année à vous, ma chère Marie-Laure. Et des questions toujours pertinentes en 2025. Hein.
Quelle est la place des femmes dans la mythologie et quelle part prend-elle dans nos vies, outre les domaines culturels et artistiques ?
Et nous saluons notre ami Christophe André, notre Poséidon, dieu de la mer et des océans, souffrant ce matin. Et vous aurez ce matin la lourde tâche d'être sa porte-voix, la porte-voix de notre cher Christophe André. sujet, Marie-Laure.
Absolument. Alors, nous parlerons des dieux qui peuvent nous décevoir et que faire alors de nos déceptions et de nos désillusions. On en parle tout à l'heure.
Allez, réveille.
Mais Zéra, je croyais qu'elle était en stage de plongée chez son frère.
Grand bien vous fasse.
Bonjour ma chérie, tu n'es pas chez Poséidon ?
Il y avait des problèmes d'infiltration dans son palais, du coup on a annulé. Qu'est-ce que tu fais chez cette nymphe ?
Hein ?
Sur France Inter.
Et ce matin, comment la mythologie gréco-latine peut nous aider à vivre avec nous, l'helléniste Pierre Judet de la Combe, producteur de Quand les dieux rôdaient sur la terre, avec la romancière et latiniste Blandine Le Calais, et avec le rédacteur en chef de la revue Mythologie, Bertrand Auduit. Je vous propose d'écouter la metteuse en scène Ariane Mouchkine, c'était en 1990.
Les légendes voyaient ça. Je crois que Euripide et Échille avancent. Ce n'est pas l'histoire de la malédiction, la tragédie, je ne crois pas. Je crois que c'est justement... Moi, ce que je ressens, c'est toujours la contradiction entre destin et choix. Il y a du destin, mais il y a du choix. Et puis, il y a du mauvais choix, qui entraîne forcément un mauvais destin. Et il y a, je dirais, presque débat sur est-ce qu'un bon choix entraîne forcément un bon destin ? Le cœur dit à un moment. Oui, voilà. Le cœur, il fait à un moment, dit là-dessus, j'ai mon idée et pense différemment des autres. Dans les maisons où règne la très stricte justice, le destin toujours est un bel enfant. Le problème, c'est que ce n'est pas tout à fait vrai non plus. Parfois, il y a des bons choix, mais il y a aussi du mauvais destin. Et je crois que c'est ça la tragédie. La tragédie, c'est la lutte entre le choix et les dieux, et tout existe.
Ariane Mouchkine, dans Une vie, une œuvre, le 6 décembre 1990 sur France Culture. Commentaire autour de la table, Pierre Judet de la Combe.
C'est émouvant d'entendre Ariane Mouchkine dire ça. Alors effectivement, elle a mille fois raison. Quand il y a la justice, le destin est toujours un bel enfant, c'est le cœur qui dit ça. Le cœur, c'est dans la tragédie, c'est la conscience collective, c'est la culture collective, c'est ce qu'on attend de mieux. Et ce qu'on va voir avec les événements, c'est le contraire. C'est-à-dire c'est un crime horrible, la mort d'Agamemnon, suivi ensuite de tas de vengeances. Donc dans la tragédie, il y a la sagesse, tout ce qu'on peut dire, ce que la culture sait dire face au monstrueux, manière de l'absorber et d'aller plus loin, de dire il y a un salut possible. Et la tragédie, non. C'est le monde, c'est pas une affaire de concepts, de sagesse, de règles. Ce sont des événements. Et là, la mort d'Agamemnon justifiée parce que il a tué sa fille. Et moi, je suis pour Clytemnestre, donc il tue son mari. Mais je veux dire, c'est malgré tout horrible. Et après, faut tuer la mère, c'est encore pire, etc. Donc c'est une. Et ça, on voit ça, c'est la tragédie, mais on voit ça dans le mythe et dans l'épopée. Enfin, en général, c'est cette pensée de l'événement. Qu'est-ce qui se passe pour des gens ici, maintenant, des êtres humains avec leur corps, leur âme, enfin, leurs sentiments, quand ils sont confrontés aux grandes lois, lois que imposent plus ou moins les dieux étant eux-mêmes déchirés. Et c'est pour ça, c'est que c'est un monde déchiré dans la mythologie. Alors, ou bien on va du côté de l'humour, il y a beaucoup de rire, même dans Homère, parce que il n'y a pas de prêtre qui soit là pour dire c'est ça la vérité, il n'y a aucun dogme. Il faut quand même dire qu'en Grèce ancienne, il n'y a strictement jamais eu de guerre de religion. Il ne pouvait pas y avoir les attentats de Charlie Hebdo, ça c'est complètement impossible. Et donc, il y a une liberté plus ou moins reconnue. Bon, parfois, si on va trop loin, on peut avoir des problèmes avec la justice, s'il y a un grincheux qui vous attaque. Mais je veux dire, il n'y a pas de censure. Et donc, il n'y a pas de censure religieuse. Et c'est vraiment une réflexion complètement ouverte, ou bien du côté de l'humour, ou parfois du côté du tragique, sur ce qui fait cette condition de vivant, où on vit seconde après seconde des événements différents.
Blandine Le Calais.
Oui, ça c'est très important de dire que c'est une religion, c'est un monde sans dogme. Il n'y a pas de religion du livre dans l'Antiquité gréco-romaine. Et donc il y a une liberté par rapport aux dieux, à ce qu'on en raconte. Ils deviennent des personnages, une matière première pour les poètes et pour les auteurs en général. Et du coup, la mythologie, ça n'est pas donc quelque chose qui est figé, c'est quelque chose qui s'invente au fur et à mesure, qui se réapproprie et que les auteurs se réapproprient en ajoutant parfois des épisodes de leur propre composition. Ovide, par exemple, hein, il reprend les mythes et puis il ajoute des petites choses fantaisistes, etc. Et c'est ça aussi qui est très agréable, c'est qu'on sent une liberté, il n'y a pas une inquisition au-dessus pour dire, là, vous avez dit un truc sur Zeus, on va vous couper la tête. Non, les auteurs, ils ont le droit, et y compris dans l'humour, comme vous le disiez, le burlesque. Et ça, c'est ça qui est aussi très plaisant, c'est-à-dire que Zeus, c'est à la fois un dieu qui peut être considéré comme extrêmement, présenté comme très majestueux, dominant tous les autres par son intelligence, etc. Et puis on le voit dans des comédies, le sexe en érection, parce qu'il veut aller coucher avec une mortelle. Et il est grotesque, et il est burlesque. Et ça, c'est drôle, ça c'est très agréable.
Qui a inventé les mythes grecs, les mythes romains, tous ces récits prodigieux? Qui a inventé Zeus, Jupiter, Aphrodite, Apollon, ou encore Dionysos, Pierre Judé de la Combe?
On a envie de dire que les mythes grecs ont été inventés par les Grecs. Mais ce n'est pas exactement ça. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a des vieilles traditions séculaires, puisqu'on retrouve l'équivalent des dieux dans les mythologies germaniques, nordiques, en Inde, etc. Donc ça, c'est tout l'espace indo-européen qui existe quand même. Et aussi, il y a des emprunts avec le monde de la Mésopotamie, avec l'Égypte. C'était tout près. C'était la même ère culturelle, si on peut dire. Ils se connaissaient très bien. Et de même qu'on a des textes babyloniens sur les Grecs, on a des textes grecs sur Babylone, mais sur les Perses, mais aussi on a des emprunts. Et le rapport entre Ulysse et Gilgamesh est complètement très très frappant, sauf que c'est l'inverse. C'est ça qui est intéressant, c'est l'inverse. Gilgamesh veut être immortel.
Gilgamesh, c'est le grand récit.
C'est le grand récit donc d'un roi qui cherche l'immortalité. Et Ulysse, on lui propose, il dit mais tout, mais pas ça. Moi, je veux rester mortel avec, dans mon palais, avec ma famille, etc. Donc là, il peut y avoir les mêmes éléments, les mêmes matériaux sémantiques, comme on dit, ou narratifs, mais inversés. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a des scènes d'initiation dans l'Odyssée, alors que c'est l'Odyssée d'Homère, le retour d'Ulysse chez lui après sa victoire à Troie, c'est tout sauf un roman d'initiation. Il ne veut pas être initié, lui, il veut, sauf qu'il est initié à quelque chose, à une forme de perception de la finitude qui est comme différence, comme un abîme. Donc il n'a aucune consistance, Ulysse, d'une certaine manière. Et ça, c'est ça, il apprend ça. Donc je dirais, là, c'est au-delà de la sagesse. Donc il apprend qu'il est un rien.
Bertrand Audouy, de Mythologie.
Oui, alors moi je suis pas un spécialiste, mais j'ai interviewé notamment deux préhistoriens français qui travaillent notamment sur l'origine des mythes. Et dans notre esprit, eh bien, quand on lit Homère, on se dit bien c'est un récit qui date du 8e siècle avant Jésus-Christ. Donc il fixe ça sur le papier, hein, sur le papyrus. Et il récupère, je schématise, hein, sous le contrôle de Pierre-Judé de Lacroix, évidemment, et il va puiser dans des récits bien antérieurs qui datent de l'époque des Achéens, donc on est quoi, vers 1500 avant Jésus-Christ, mais l'écriture, elle naît bien, bien avant encore, vers 3300 en Mésopotamie, et ces préhistoriens disent, mais en fin de compte, certains thèmes, comme par exemple le cyclope, le géant, sont des thèmes universels ou qu'on le retrouve dans certaines zones du monde et qui peuvent remonter même jusqu'à la préhistoire, hein, puisque on commence déjà à peindre il y a 12 000 ans sur Lascaux, on commence à peindre vers moins 35 000, enfin il y a 35 000 ans à Chauvet, donc on peut bien imaginer qu'avant de peindre, les hommes racontaient des récits.
Comment tirer une sagesse de la mythologie gréco-romaine, tant ces histoires incroyables sont entachées par la violence, la jalousie, la traîtrise, Blandine Le Callais, toutes ces divinités, vous le rappelez dans votre livre Pierre-Judé de la Combe, toutes ces divinités, ces héros n'arrêtent pas de se taper dessus, de se tromper, de s'assassiner les uns les autres, de dévorer leurs enfants ou de tuer père et mère.
Et justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que les figures qui nous sont données pour supérieures et admirables, les héros qui sont des hommes supérieurs, les dieux a fortiori, sont totalement faillibles. Et je crois que ça nous invite tout simplement à se dire que les saints n'existent pas, les gourous n'existent pas, les leaders infaillibles n'existent pas. Et philosophiquement, c'est intéressant d'envisager le monde comme ça. Et politiquement, c'est intéressant aussi. Donc moi, c'est vraiment ça qui m'intéresse dans la mythologie. Là, je suis en train de m'intéresser beaucoup à Ulysse, justement, à ses aventures avec Polyphème. C'est très compliqué de ne pas voir que Ulysse, il est ultra-violent, qu'il commet des torts, il agresse Polyphème. Donc on peut retourner complètement cette figure héroïque qui nous est donnée, qui est offerte à notre admiration. Et moi, c'est essentiellement ça qui m'intéresse dans la mythologie gréco-romaine, ce côté réversible.
Pierre-Judé de la Combe.
Oui, c'est-à-dire que comme il n'y a pas de dogme, il n'y a pas de vérité, alors on sait qu'il y a un ordre des choses, comme les Grecs disaient un cosmos. Donc les choses ne sont pas n'importe comment et c'est beau. Le monde est beau s'il est harmonieux. Mais pour faire l'harmonie, il faut de la disharmonie. Il faut de la contradiction. C'est une pensée, on dirait nous, très extrêmement dialectique. Et donc les héros, les dieux sont dans des excès. Par exemple, on peut aimer Achille. Moi, j'aime bien Achille. Alors que c'est une brute incroyable. Mais justement, c'est que on passe par les excès les plus grands. Et ça, je voudrais simplement dire, bon, il y a une troupe de théâtre qui s'appelle Theatre of War au Canada, qui a lu l'Ajax de Sophocle. C'est un héros qui est devenu fou, qui s'est suicidé parce qu'il a un grand guerrier, parce qu'il n'a pas été reconnu par les siens. Et ils ont joué ça devant les GI après une vague de suicides de vétérans de l'Irak. Eh bien, les gens ont pu commencer à parler, ils se sont reconnus dans cet Ajax. Et donc là, la tragédie va au fond du pathos, du trauma. Il n'y a aucun, comment dire, on gomme rien, on efface rien, on va très loin dans la violence, la pire, mais le fait que la violence devienne musique, langage, poésie, on peut se l'approprier, du coup on peut reconnecter les parties de soi qui sont déconnectées par les traumas. Et ça c'est capital, je pense. Donc il n'y a pas de morale, mais c'est simplement reconstitution de la possibilité d'un soi.
C'est très intéressant ce que vous venez de dire, parce que j'ai regardé récemment une série qui s'appelle New Amsterdam, et où il y a un GI qui est traumatisé de guerre, et on soigne un groupe de soldats vétérans qui sont victimes de traumatismes, en leur faisant jouer le phyloctet. Donc voilà, la cure par la tragédie des traumatismes.
Question de Marie-Laure Zonshine, de Femmes Actuelles.
Oui, Pierre-Judé de Lacombe, face au patriarcat, aux normes sociales, aux violences subies, aux stéréotypes de genre, quelle place occupent les femmes dans la mythologie ? Elles combattent la domination masculine, elles font preuve de courage, elles prennent les armes, en tout cas certaines d'entre elles. Est-ce qu'on peut parler de récits féministes ? D'ailleurs, dans votre livre, Hera, dans le chapitre s'intitule « Hera, Superwoman
». Ouh là là, mais comme vous savez, imposer la domination masculine, c'est du boulot. Donc ça coule. Il faut le faire, il faut argumenter, etc. Et là où les Grecs étaient quand même assez futés, alors qu'il y a une domination masculine, bon, qui n'était pas exactement celle qu'on dit, parce que les discours misogynes sont souvent des discours d'auto-persuasion des mecs qui voulaient se dire nous sommes supérieurs, etc. Mais très souvent, ils sont tournés en ridicule. Alors dans la mythologie, c'est toujours complexe, parce qu'elle est vraiment, comme on dit, dialectique. C'est vrai que à la fin, c'est le patriarche, c'est Zeus qui gagne, et les patriarches multiples, hein, parce que lui, il a des familles un peu partout, quoi. Je veux dire, mais le féminin est toujours posé comme question, gênante, comme question qui doit mettre du mouvement. S'il y a du mouvement, s'il y a de l'histoire, c'est parce qu'il y a la première divinité, enfin, c'est pas exactement la première, c'est Gaïa, Terre. Et terre, c'est donc à la fois la procréation, la fécondité, etc. Mais c'est la ruse, c'est la réflexion, c'est celle qui peut se rentrer en elle-même et créer au fond d'une grotte d'elle-même une serpe pour pouvoir châtrer son mari, le dieu ciel. Donc c'est, il y a à la fois la technique et la nature. Donc le féminin est posé comme un lieu, où tout converge de manière qu'on ne peut pas conceptuellement vraiment articuler, et surtout pas socialement. Il y a des grandes femmes rebelles, Médée, bon, on peut en parler, sauf que Jason, qui l'a trompé, Jason était bien vu par les Grecs. Mais Médée, donc, qui tue ses enfants, tout ça, donc, mais c'est pas féministe. Je veux dire que c'est simplement montrer il y a quelque chose que vous ne comprenez pas. Et les femmes dans la tragédie sont plus viriles que les hommes. Donc le modèle reste malgré tout masculin.
Blandine Le Calais.
Alors, ce qui est intéressant dans la mythologie gréco-romaine, c'est que Zeus, il a une fille qui est sortie de sa tête, qui s'appelle Athéna, qui elle-même est la fille de Métis, la sagesse, qui a été avalée par Zeus. Et donc, il y a quand même un principe féminin presque à l'origine de la sagesse de Zeus, c'est le fait qu'il a Métis à l'intérieur de lui, la déesse féminine. Et Athéna, c'est quand même sa fille préférée et son prolongement. Donc on a quand même, en haut de la hiérarchie divine, un couple mixte féminin-masculin, Athéna-Zeus. Alors, j'ai pas le temps de parler de Médée, je vais pas tenir le crachoir, mais j'en aurais des choses à dire. Si, c'est vrai. Médée, évidemment, c'est une grosse méchante. Sorcière, infanticide, régicide, tout ça. Mais, par exemple, dans la pièce de Sénèque, elle est considérée, je parlais tout à l'heure de la transgression qui a représenté le voyage des Argonautes, premier voyage en haute mer, viol de la mer, etc. Eh bien, le cœur, qui pourtant est hostile à Médée, dit, Médée, c'est le fléau que les dieux nous ont envoyé pour punir les sacrilèges qui ont violé la mer. Et donc, le cœur espère que Jason va être épargné, mais il sait très bien qu'il y a peut-être une justice divine qui est à l'œuvre et que c'est Médée qui va, paradoxalement, être un agent de la justice divine. Donc, on est dans la totale ambivalence, là encore. Une affreuse sorcière transgressive et en même temps, quelqu'un qui va, finalement, dont les méfaits vont servir de justice, de punition aux coupables.
Et je rappelle qu'on peut lire votre BD, hein, ouais. Médée. Il est temps de retrouver les choses vues de Christophe André avec la voix de Marie-Laure Sunshine, notre cher Christophe André, qui est souffrant ce matin.
France Inter.
T'es quoi, t'es médecin, psychiatre?
Grand bien vous fasse.
Psychothérapeute. Qu'est-ce qui me prouve que t'es psychothérapeute?
Elle n'est pas du tout psychiatre, Marie-Laure Sunshine.
Je confirme. La foi est plus belle que Dieu. C'est ce que nous dit Claude Nougaro dans sa chanson « Plume d'ange ». La foi est plus belle que Dieu. Elle est aussi plus émouvante et plus intéressante, pour le psychiatre qu'est Christophe, et plus facile à aborder. Je vais donc vous parler de foi, plutôt que vous parler des dieux ou d'un dieu. La foi est une confiance et une croyance. Confiance dans le fait que les humains ne sont pas des créatures orphelines, abandonnées dans un univers indifférent. Croyance dans le fait que Dieu est à nos côtés, qu'il nous guide, nous éclaire, nous soutient, nous sauve parfois ici-bas et nous sauvera en tout cas dans l'au-delà. La foi est aussi une source de motivation qui nous pousse à agir pour le meilleur et pour le pire. On ne parlera aujourd'hui que du meilleur.
C'est pour toi Seigneur qu'ils ont en marché.
La foi est une croyance belle et réconfortante, mais quelquefois, non, pas quelquefois, toujours. Cette foi finit par être déçue. Tôt ou tard, les croyants ont le sentiment que Dieu les oublie, ou les punit, ou les éprouve. C'est Paul Valéry qui avait un jour eu cette remarque si juste et si terrible. « Je déçois ? C'est une belle devise, je déçois, sans doute celle d'un Dieu. » Quand Dieu nous déçoit, alors, oscillation de la foi, presque tous les croyants avec qui Christophe a parlé de cela ont raconté leur moment de doute. Comment continuer de croire en un Dieu qui nous a déçus? Comment ne pas douter de lui, de son existence, de sa bienveillance? Peut-être qu'au fond, ce n'est pas si grave. C'est Nietzsche qui écrivait « Ce n'est pas le doute qui rend fou, c'est la certitude ». C'est très vrai pour la foi. La certitude, le manque de doute, cela conduit vite au fanatisme. Le doute peut certes conduire à l'amertume, mais il peut nous mener aussi à une foi, et plus largement à une vision du monde plus mesurée, plus sage. La déception est une désillusion, certes, mais il y a des désillusions souriantes et fécondes. Toute notre vie est traversée de désillusions. On croit au Père Noël, puis on est déçu d'apprendre qu'il n'existe pas, puis on reste heureux quand même de vivre les fêtes de Noël. On croit nos parents merveilleux et tout-puissants, puis on grandit et on les découvre imparfaits et limités, puis on les aime quand même. Finalement, devenir adulte, c'est se remettre de ces désillusions, sans amertume, avec lucidité. C'est considérer que la vie fait son boulot quand elle balaye nos chimères, chasse nos naïvetés dangereuses, parce qu'en dissipant certaines de nos illusions, elle laisse le champ libre aux émerveillements du réel. Voilà, c'est ça. Il faut avoir la foi en Dieu, en la vie, en les humains, en soi, la foi en tout. Puis cette foi, il faut la perdre. Puis, pour ne pas sombrer dans le cynisme et la déprime, il faut la retrouver, mais différente, mais lucide. C'est ainsi que nous évitons d'être des humains amers, c'est ainsi que nous pouvons devenir plus sages. Parce que la sagesse, ce n'est pas si compliqué. C'est chercher le bonheur sans renoncer à la lucidité. C'est avoir une foi réaliste en la vie, en nos semblables et en nos divinités. On dit parfois que les Grecs de l'Antiquité ne croyaient pas tout à fait à leur Dieu. Eh bien, cela ne m'étonne pas de la part d'un peuple qui a inventé la sagesse.
Les choses vues de Christophe André par Marie-Laure Sunshine, c'est à podcaster sur l'appli France Inter.
Grand bien vous fasse sur France Inter.
Alors là, la secrétaire me dit « Madame Jocaste, vous êtes peut-être la reine de Thèbes, mais le docteur Freud ne prend plus de rendez-vous avant 1917. Le culot de la bonne femme. »
Maman, je sors faire un tour, hein.
Ok, mon chéri, à ce soir pour le dîner. Oui, c'est Oedipe. Oui, depuis le confinement, il est revenu vivre à la maison. On l'appelle Tanguy. Ça l'énerve, je te dis pas. Avec son père? Oh ben non, tu parles, ça se passe pas bien du tout. L'autre jour, ils se sont disputés, il l'a carrément tué. Tu vois le niveau? Non, mais moi, je m'en mêle pas, tu me connais, j'ai pas du tout le goût de la tragédie.
50 nuances de grec de Jules et Charles Pépin. Et ce matin, on se demande comment la mythologie gréco-latine peut nous aider à vivre. Donc, j'aimerais qu'on s'attarde sur le mythe d'Édipe, popularisé par la psychanalyse, et ce mythe qui est remis en question aujourd'hui par certains chercheurs. Dans votre livre, Pierre Judé de Lacombe, il est à la fois bien heureux et damné, hein, Édipe, hein ?
Ben oui, c'est qu'il avait tout pour plaire, pour réussir. D'ailleurs, il réussit. Et donc, faut voir, Oedipe, au départ, c'est pas du tout un personnage tragique. Moi, ce que j'aime bien l'appeler, c'est un petit branleur, quoi, qui vient, qui gagne, qui est colérique, qui casse la figure d'un vieux, là, qui rencontre sur le chemin, il est futé. Et donc, par rapport à la Sphinx, il trouve la solution tout de suite. Il épouse une femme, bon, qui est belle, qu'il connaissait pas. Bon, il se trouve que c'est sa mère. Donc, mais en fait, il est le plus heureux. Ça, les poètes disent ça. Il est le plus heureux des hommes, béni des dieux. Mais simplement, il ne sait pas qui il est. Et là, il y a une espèce de descente aux enfers, si on peut dire. Mais ce qui est passionnant, c'est que c'est par ses moyens de mec, quoi, de celui qui réussit, qu'il arrive à tomber dans sa propre ruine. Et c'est pour ça qu'à la fin, il peut dire tout ce qui m'est arrivé, c'est moi, et tout ce qui m'est arrivé, c'est les dieux. Donc, il dit les deux choses en même temps. Et ça, c'est vraiment une oscillation, là. Donc, et Sophocle, celui qui a fait, c'est la seule tragédie en grec qu'on ait sur lui, vraiment ne conclut pas. Il dit, ben, voilà, c'est ça l'histoire.
J'aimerais qu'on s'attarde, tiens, sur Antigone. Vous lui consacrez de belles pages dans votre livre, Pierre Judé de Lacombe. Qui était Antigone ? C'est une princesse rebelle, écrivez-vous.
C'est une princesse rebelle qui sans doute a été inventée par l'auteur tragique Sophocle. Avant, on n'en a presque pas de traces. Et alors Antigone, c'est donc son nom veut dire celle qui est née contre. Antigone.
C'est la fille d'Édipe.
C'est la fille d'Édipe et de la mère d'Édipe, donc et de Jocaste. Elle a une sœur Ismène qui est beaucoup plus douce, cool qu'elle, et deux frères qui vont s'entretuer. Et donc elle est contre tout ça. Et finalement, elle est même contre elle-même. Et donc, et ce qui est passionnant, c'est dans ce travail négatif, si on peut dire, par rapport à tout ce mauvais destin, elle va prendre des causes. Dire qu'est-ce que c'est que la vraie loi, qu'est-ce que c'est que la vraie cité, qu'est-ce que c'est que la famille. Mais c'est des causes qu'elle prend. C'est pas son moteur profond qui est de s'affirmer comme stricte singularité qui ne se laisse pas prendre dans ce roman familial.
Antigone est condamnée à mort pour avoir enterré son frère Polynice, voilà, malgré l'interdiction du roi Créon. Et pour vous, c'est la figure emblématique de la révolte de la conscience morale contre la raison d'État. Et d'ailleurs, Antigone a inspiré de nombreux dramaturges, hein, Sophocle, Cocteau, Anouilh ou Brecht. Quelle leçon tirez-vous pour aujourd'hui, pour 2025, alors, de l'histoire d'Antigone? Et elle est un modèle, hein, pour vous. Hein.
Alors, elle est un modèle, alors pas tellement bon, comme révolté, tout ça. Ça, on peut aimer ça, ça, Dieu sait, on aurait de bonnes raisons pour le faire. C'est le retrait. C'est-à-dire, je ne me laisserai pas avoir par ces discours idéologiques qui posent la loi, parce que contre la loi que pose Créon, qui est une espèce de chef politique assez futé en réalité, qui pense que la politique ou le politique décide de tout, c'est l'État qui décide de tout, elle dit ben non. Et finalement, elle arrive à dire, alors cette chose extraordinaire, j'ai fait ça parce que c'était mon frère et que mes parents sont morts. Si c'était mon mari, je l'aurais pas fait parce qu'un mari, on en trouve un autre. Si c'était mon enfant, je l'aurais pas fait d'aller contre l'ordre de Créon parce qu'un enfant, on peut en faire un autre. Mon frère, je pouvais pas en faire un autre parce que mes parents sont morts. Donc il est absolument unique. Et c'est ce moment de retrait comme ça qui est négatif d'une certaine manière, ça produit aucun ordre, mais qui fait que tout est ébranlé, quoi, et que tout ce qu'on peut dire sur la société, etc., est mis en question par l'acte d'Antigone.
Un mot sur Antigone, Blandine Lecallet.
Je voudrais bien parler d'Édipe, je peux ?
Allez-y. Faites-vous
non,
plaisir.
Moi, je me suis beaucoup intéressée, puisque j'ai traduit l'Édipe de Sénèque, et c'est assez intéressant la façon dont Sénèque aborde le personnage. Sénèque, il est stoïcien. Il pense que l'homme a toujours la possibilité d'être heureux, quel que soit son destin. Et en fait, c'est ce qu'illustre l'Édipe de Sénèque, c'est-à-dire que, enfin, plus là, un contre-exemple, c'est-à-dire que Édipe, il a un destin épouvantable, les dieux ont décidé qu'il allait tuer son père, épouser sa mère. Il passe sa vie à essayer d'échapper à ça, et finalement, le destin s'accomplit. Et en fait, ce que dit Sénèque, c'est que Édipe devient monstrueux parce que il n'accepte pas ce destin. Il essaye de, il a les comptes. Et au moment où il se révèle monstrueux, il ne s'accepte pas comme monstre. Il va pousser sa mère au suicide. Par haine de soi, il va se crever les yeux. Et ce que dit Sénèque, c'est que Édipe n'est pas tant monstrueux parce qu'il a tué son père, épousé sa mère. Il a pas fait exprès, quelque part, mais parce qu'il devient un monstre au moment où il apprend sa monstruosité. Il pousse Jocasse au suicide, il se mutile. Et ce que dit Sénèque, c'est qu'Édipe aurait pu être heureux, même après la révélation de ses crimes. Il aurait dû accepter ce destin, et il se révolte contre ça. Donc moi, ça m'a... Enfin, voilà, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément, et j'adore évidemment Antigone, cette belle figure de femme, comme la mythologie nous en offre quand même énormément.
Un mot, Bertrand Audouy, j'ai puisé dans votre numéro consacré à la sagesse des Grecs de mythologie, la figure de Narcisse, très contemporaine. Rappelez-nous en quelques mots quelle était la faute de Narcisse, et puis sa métamorphose, Bertrand Audouy.
Alors, sa faute, je m'en souviens.
Bon, il est un peu couillon, c'est tout.
Oui, c'est ça, et puis...
Il tombe amoureux de son reflet, c'est quand même un peu bête. Hein.
Oui, c'est un peu ça.
C'est une figure très contemporaine, Narcisse.
C'est une figure contemporaine, parce qu'il tombe amoureux de son reflet, et ça nous renvoie directement à notre pratique du selfie. Hein, c'est-à-dire
pas que du selfie, des réseaux sociaux, de tas d'autres...
Et des réseaux sociaux. C'est-à-dire que l'on veut absolument être unique dans un monde global où chacun veut être unique. Voilà.
Narcisse qui a évidemment donné naissance au mot narcissisme ou hyper-narcissisme.
Voilà. Et donc ça, c'est une notion qui évoque quelque chose de fort chez nous. Mais est-ce que je peux revenir également sur Œdipe et sur une notion qui est la notion de destin? Donc si j'ai bien compris, chez les Grecs, le destin est inscrit. Hein, donc on est face à son destin. Donc ça fait partie d'une des valeurs de la sagesse grecque. Hein, donc, or nous, dans notre conception du monde, justement, il faut briser le destin. C'est-à-dire que rien n'est écrit. Il faut briser... il faut briser...
Les déterminismes.
Voilà, tous les déterminismes. Et en cela, c'est un
personnage de la Combe
qui nous interroge.
Alors, le destin, oui, mais c'est que ce qui est arrivé, ce qui arrive à la fin, devait arriver. Mais sauf qu'on ne le sait pas avant. C'est-à-dire qu'on n'a pas, il n'y a pas un programme déjà écrit. C'est qu'on se dit, tiens, je découvre. Et donc, c'est cette idée que dans tous les héros grecs ou héroïnes dans la mythologie ont un destin fini. Alors que notre vie à nous, elle est ouverte. Et pour les Grecs aussi, ils se disaient, il n'y a pas un sens de l'histoire, il y aura peut-être un sens de notre vie, mais on ne le sait pas. Au moins, les héros grecs, dont la vie est finie, parce qu'on connaît leur mort, on connaît leur destin, où ils deviennent dieux parfois, enfin très peu, c'est fini. Donc là, on a l'idée d'une existence complète. Et ça permet de... C'est une chose qui est encore utile maintenant, où le monde est d'autant plus encore plus déchiré qu'à l'époque des Grecs.
Et nous accueillons Frédéric Sigrist. Bonjour.
Bonjour Ali.
Comédien, humoriste, alors l'un de vos spectacles s'appelait Super-héros. La mythologie gréco-romaine vous passionne tout autant que la culture pop et les super-héros comme Batman, Spider-Man ou Superman. Pourquoi ces héros de la mythologie gréco-romaine vous ont-ils autant marqué? Est-ce qu'il y a un héros ou un dieu qui vous a quelque part un peu façonné, Frédéric Sigrist? Pourquoi ça vous fascine d'abord? Et vous intéresse.
Alors d'abord, je suis un enfant des années 80 qui a grandi avec le dessin animé Ulysse 31,
et oui.
Puis Les Chevaliers du Zodiac, et donc forcément j'ai découvert aussi au cinéma, à la télévision plutôt, Jason et les Argonautes, Le Choc des Titans, et donc forcément la mythologie ça m'a frappé, et quand je me suis plongé dedans, j'ai découvert un livre qui a complètement changé ma vie et qui est toujours mon livre et roman préféré, qui s'appelle l'Iliade. Et la figure qui m'a le plus marqué dans ce récit écrit par le poète Homère, c'est Hector.
Pourquoi? Pourquoi ça reste un modèle? Qui est Hector, en quelques mots? Et pourquoi c'est un modèle encore pour vous aujourd'hui, Frédéric Sigrist?
Parce que Hector est celui qui fait ce qui doit être fait, mais alors qu'il pourrait totalement dire « je ne suis pas à l'origine de ces problèmes, c'est pas moi qui ai causé ce conflit, c'est son frère Paris qui est tombé amoureux de la belle Hélène, avec évidemment l'action des dieux en coulisses. Et il se retrouve à devoir défendre une cité assiégée par Ménélas et les Grecs, et notamment le guerrier impitoyable Achille. Et lui, c'est un homme qui a une famille, qui est juste, qui est honnête. Et dans le récit, on le voit se battre contre une force absolument implacable qui est Achille déchaîné, et qui est en colère suite à la mort de son ami slash amant Patrocle. Et on voit un homme qui, dès le début, on le sait, va perdre, parce que ça n'est qu'un humain face à un demi-dieu. Mais il le fait avec une noblesse d'âme et un courage qui, moi, m'a toujours inspiré. Et, qui me
et encore aujourd'hui.
Encore aujourd'hui. Ouais. Parce que pour moi, c'est un phare dans l'obscurité. C'est-à-dire que même quand on sait qu'on ne verra peut-être pas un dénouement heureux à une lutte, quelle qu'elle soit, eh ben, il faut quand même la mener, parce que peu importe le résultat, c'est plus une histoire d'honnêteté vis-à-vis de soi-même. Et je trouve qu'Hector, en ce sens, est un personnage qui perd, mais qui gagne.
Merci beaucoup Frédéric Sigrist pour ce témoignage. En quelques secondes, un héros, une divinité qui vous marque et qui a peut-être changé votre vie, Pierre Judé de la Combe.
Il y en a plein, mais on peut hésiter. Moi, j'hésiterai entre Dionysos, mais qui est un peu vache quand même. Hermès, plutôt. Parce que...
Blandine
Moi, c'est Héphaïstos, parce qu'il est handicapé, méprisé, un peu moche, et qu'en même temps, c'est un dieu important, attachant, et qu'il pécho les plus belles.
Et vous, Bertrand?
Moi, c'est Ulysse, parce que j'ai découvert à l'âge de 8 ans. Je me suis déguisé en Ulysse pour rejoindre un groupe de copains qui étaient en cow-boy et en indien. Et ils m'ont dit, mais tu es qui, toi? Et je leur ai dit, moi, je m'appelle personne.
C'est pas mal, pas mal du tout. Merci beaucoup, Pierre Judé de la Combe. Quand les dieux rôdaient sur la terre, c'est évidemment le samedi à 11h sur France Inter. Le livre éponyme, le très beau livre, Quand les dieux rôdaient sur la terre, vient de paraître chez Albin Michel et les Belles Lettres. Merci, Blandine Lecallier. On peut lire avec profit les 4 tomes de votre BD chez Casterman, et également Le monde antique d'Harry Potter avec Valentine Lecallier, votre fille, autrice de BD. Merci beaucoup Bertrand Audouy. À la une du dernier numéro de votre magazine Mythologie, c'est, alors j'en ai plusieurs sous les yeux, c'est lequel le dernier? C'est Aux origines du monde chrétien, qui est disponible en kiosque. À demain.
Grand bien vous fasse, un podcast France Inter.